France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps, en Grèce, être un dieu, ce n'était pas de tout repos. Il fallait assurer sa fonction sans jamais faiblir. Sinon, on ne méritait pas son titre de dieu bienheureux et immortel. Mais la vie était, même pour les dieux, pleine d'imprévus. Prenez le dieu soleil, par exemple. Hélios, le flamboyant. Il avait un métier régulier, normalement sans problème. Tous les jours, il se levait, à des heures différentes selon les saisons. Il montait sur son char, lançait ses chevaux jusqu'en haut du ciel. Puis il redescendait vers le couchant, en faisant attention de bien gérer sa vitesse. La descente était périlleuse. Il atteignait les bords de l'océan, à l'ouest. Puis son copain Océan le prenait en charge pour toute une nuit. Les eaux du fleuve Océan le portaient tranquillement dans une embarcation en or jusqu'à l'extrême est. Et la course reprenait le jour suivant.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Le soleil devait toujours être à l'heure, nous dit Mimnerme, un poète du 7e siècle avant Jésus-Christ.
Le soleil s'est vu attribuer un travail quotidien. Il n'y a aucune pause, jamais. Pour ses chevaux et pour lui, quand Aurore aux doigts de rose quitte l'océan et s'élève dans le ciel.
Il n'y avait de repos que la nuit. Selon ce poète, le soleil disposait alors d'un lit magnifique que portaient les eaux de l'océan sans le mouiller. Des ailes d'or le maintenaient au-dessus des vagues. Le soleil pouvait dormir.
Car sur la houle le porte un lit mille fois désirable, martelé en creux par les mains d'Héphaïstos dans un or de prix. Des ailes le soutiennent sur la crête de l'eau. Vite, pendant qu'il dort, depuis le domaine des Hespérides jusqu'à la terre des Éthiopiens, où son char rapide et ses chevaux sont en place, jusqu'à la venue d'Aurore, née du matin. Là, il monte sur son char, le fils d'Hyperion.
Personne n'a vu ce lit doré. Un autre poète disait que ce n'était pas un lit, mais une coupe d'or. Elle flottait sur l'océan et l'emmenait très loin, dans des zones obscures, pour que le soleil ait enfin droit à sa vie de famille. Dans un lieu sombre, retiré, on ne sait où, il retrouvait femme et enfant.
Soleil, fils d'Hyperion, monté dans la coupe d'or pour franchir l'océan et atteindre les abîmes de la nuit sacrée, ténébreuse, près de sa mère, de sa femme légitime et de ses enfants chéris.
C'était comme ça. Le soleil n'était bien chez lui au repos que quand il était caché quelque part dans la nuit et n'éclairait que sa petite famille discrètement. Puis il devait, d'une manière ou d'une autre, revenir vers l'est, vers le levant, et avec ses chevaux, reprendre sa course lumineuse dans le ciel, invariablement. Ce n'était pas un métier facile. Conduire le char demandait beaucoup d'habileté. Il fallait bien tenir ses chevaux, qui étaient des bolides puissants, ne pas les traumatiser par des coups de fouet, mais les manœuvrer délicatement avec les rênes. Il ne fallait jamais dévier de sa route. C'était répétitif, mais ça avait beaucoup à voir avec la Formule 1. Tour après tour, à très grande vitesse, vu la distance à parcourir. Un travail quotidien qui demandait de la force physique et une énorme attention. Tout devait être accompli selon l'ordre des choses. Cet ordre des choses était ce que les Grecs appelaient le cosmos, à savoir la belle organisation du monde, sa belle architecture, qui faisait que tout, normalement, avait sa place définie. Le ciel en haut, là où courait chaque jour le char du soleil. Au milieu, la terre et la mer, entourées par le grand fleuve Océan, cet immense flot circulaire qui entourait la terre. Puis, en bas, loin sous la terre, les gouffres obscurs d'une région lugubre, le Tartare. Dans ce monde clairement structuré, il n'y avait pas que l'organisation spatiale qui était stable, bien définie. Le temps aussi était régulier, grâce au dieu soleil et à ses courses quotidiennes, grâce aux étoiles qui tournaient toutes ensemble avec la voûte du ciel. Autour de la terre, il y avait la ronde infinie, incessante du fleuve Océan, qui ne s'arrêtait jamais. Les flots de l'océan, un immense fleuve circulaire d'eau douce, ne cessaient de revenir après un long périple autour des continents, à leur point de départ. On disait aussi que cette eau océanique s'enfonçait et tournait jusqu'au tréfonds de la terre, dans d'immenses abîmes. Le temps, comme l'espace, était réglé grâce au mouvement circulaire de ces dieux infatigables. Tout tenait en place par ces cycles réguliers. À condition qu'ils soient réguliers. Si ça déviait ou s'arrêtait, le monde était en très grand danger. Il pouvait brûler, se noyer, devenir confus. Pour éviter cela, il fallait que le soleil, l'océan ne faiblisse, ne s'arrête jamais. C'est là que ça posait problème. L'océan, le soleil, n'étaient pas des puissances naturelles, mises en mouvement par une mécanique universelle. Ils n'obéissaient pas passivement à des lois physiques générales. Ils n'étaient pas des choses, mais des dieux. Et un dieu, ça a des émotions, des doutes. Ça peut être content ou en colère. Il arrive souvent qu'un dieu se trompe, qu'il prenne de mauvaises décisions, en prise avec d'autres dieux, et même avec des humains révoltés ou inconscients. Il peut être amené à faire ce qu'il ne devrait pas faire. Les dieux sont aussi des individus, comme nous. Ce n'est pas très rassurant, car l'ordre des choses dépendait directement des dieux, de leurs décisions, de leurs émois. La nature n'existait pas par elle-même. Elle ne pouvait pas s'imposer aux dieux s'ils devenaient déraisonnables. La nature, c'était les dieux. Ce sont eux qui, par leurs actions, leurs émotions, fixaient les règles qui s'imposent au temps, à l'espace. S'ils le voulaient, ils pouvaient tout bouleverser et faire qu'il n'y ait plus de monde bien ordonné et vivable, plus de cosmos.
Jean Grosjean, écrivain.
Dans l'Iliade, les hommes ont affaire non seulement entre eux, mais avec l'aléatoire, il y a ce qui dépend pas d'eux, ni de chacun, ni des voisins. On a l'impression qu'ils sont guidés par des dieux, et pourtant, ils restent libres, ils en font qu'à leur tête. Alors les dieux essaient de peser un peu sur la balance. Alors je dirais que c'est comme des dieux humains. Ils sont très près de l'homme, finalement. Ils sont la part de l'homme qui est inconnue. Et la nature aussi est très présente. Leurs dieux sont finalement assez liés à la nature. On dirait à notre époque, par exemple, que la pesanteur est un dieu. On ne va pas contre la vie de la pesanteur. On peut sauter, mais on retombe. C'est un peu ça, les héros grecs.
L'autorité suprême, celle qui pouvait arrêter les caprices des dieux, leur révolte, était le dieu souverain Zeus. Si un dieu délirait, désobéissait, Zeus pouvait lui envoyer sa foudre et la question était réglée. Mais ce dieu, Zeus, était aussi celui qui, avec son pouvoir, pouvait provoquer le plus grand désordre. Si l'envie lui en prenait, il pouvait menacer les autres dieux plus faibles que lui et les déposséder de tout, en détruisant l'ordre des choses que ces dieux étaient censés faire exister. Cela pouvait arriver. Un jour, Zeus a proféré une telle menace. Aucune déesse, aucun dieu n'a pu résister. Homère raconte cette histoire dans son Iliade. Zeus voulait régler la question de la guerre de Troie à sa guise. Il en avait assez que certains dieux soutiennent les Grecs et les autres les Troyens. À cause de ce désaccord dans l'Olympe, la guerre piétinait depuis 9 années. Or Zeus avait sa politique et il voulait l'imposer. Cette politique était obscure, inconnue des autres dieux. Zeus n'avait aucune envie de l'expliquer. Il faut dire qu'elle était paradoxale. Il voulait soutenir fortement les Troyens pour donner la victoire aux Grecs. Les autres dieux n'auraient pas compris. Pour réaliser cette politique tordue, Zeus voulait avoir les mains libres. Il voulait agir seul et interdire aux dieux et aux déesses d'intervenir dans la guerre. Pour les avertir, il convoque une assemblée et les menace. D'abord, Zeus invoque l'ordre des choses, l'organisation spatiale de l'univers, pour montrer qu'il peut l'utiliser comme il veut. Les dieux ont intérêt à obéir.
L'aurore au manteau de safran se répandit sur toute la terre. Et Zeus réunit l'assemblée des dieux, lui qui se plaît à la foudre sur la cime la plus extrême de l'Olympe au nombre d'eau. Il parlait, tandis qu'écoutaient tous les dieux.
Entendez-moi, tous les dieux et toutes les déesses, pour que je dise ce que l'ardeur me commande dans la poitrine. Qu'aucun dieu féminin, qu'aucun mâle n'essaie de mettre en pièce ma parole, mais ensemble tous approuvés pour qu'au plus vite je mène ces actes à leur fin. Celui que je surprendrai à vouloir, loin des dieux, aller au secours ou des Troyens ou des Grecs, sera foudroyé et ne reviendra pas avec prestance dans l'Olympe. Je le prendrai, je le jetterai dans le Tartare vaporeux, très loin, là où sous la terre est le gouffre le plus profond. Là sont les portes de fer et le seuil de bronze, aussi loin sous les enfers que le ciel est éloigné de la terre. Vous saurez à quel point je suis plus fort que tous les dieux.
L'univers est bien constitué. Tout au fond, très loin, dans le Tartare, il y a une prison toute prête pour les récalcitrants. On ne peut pas s'en échapper. Puis, Zeus va plus loin. Il montre que cet ordre de l'univers, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut le détruire. Il rappelle aux autres qu'il est beaucoup plus fort qu'eux.
Et s'il vous prend d'essayer, Dieu, sachez-le tous. Si vous suspendiez au ciel une chaîne d'or et vous vous y attachiez tous, les dieux et toutes les déesses, vous ne pourriez pas, du ciel vers le sol, tirer Zeus, le dirigeant très haut, même à grande peine. Mais si, dans l'élan de mon cœur, je voulais tirer, je tirerais la terre entière et la mer entière. Puis, cette chaîne, autour d'un promontoire de l'Olympe, je l'attacherai. Et toutes ces choses flotteraient dans l'air, tant je suis supérieur aux dieux et supérieur aux hommes.
Il dit cela, et eux tous étaient figés en silence, stupéfaits par ces mots, car il avait parlé puissamment.
Avec une chaîne d'or, Zeus pourrait tirer vers le ciel la terre et la mer. Ça veut dire que l'espace entre ciel et terre serait aboli. Or, il a fallu toute une histoire pour que cet espace, qui permet aux êtres d'exister, soit constitué. On en a parlé plusieurs fois. Il a fallu que Gaïa, la déesse Terre, fasse châtrer son époux, le dieu ciel Uranos, pour que le ciel se sépare d'elle et trouve sa place tout en haut du monde. Zeus dit qu'il peut annuler toute cette histoire tellement il est musclé. L'ordre cosmologique de la nature dépend entièrement de lui. Et tout cela pour des humains, pour des êtres faibles, mortels, qui ne valent pas les dieux, les Troyens et les Grecs. Nous sommes tellement importants aux yeux des dieux que Zeus est prêt à détruire l'ordre de la nature, rien que pour nous. On pourrait penser que cette histoire d'un dieu qui manipule la nature comme il veut n'est pas très sérieuse, naïve. On pourrait avoir envie de dire que le ciel, la terre, l'océan, ça existe par soi-même, que c'est du dur, du naturel, qui ne se laisse pas changer selon le caprice d'une divinité. Mais est-ce que cette histoire n'est pas en fait très actuelle? Et si, malgré nos faiblesses, nous n'étions pas, nous, maintenant, en train de devenir des Zeus, des tout petits Zeus, moins divins, moins flamboyants, mais aussi puissants. Les décisions, les actions humaines bousculent l'ordre de la nature. Nous le modifions au point de nous mettre en danger. À cause de nous, dans nos décisions, la planète chauffe. Elle se vide de milliers d'espèces vivantes. On le sait trop bien. Cela ne menace pas simplement notre survie, mais l'état du vivant dans son ensemble. Nous avons ce pouvoir immense. Zeus voulait changer l'univers à cause de nous, pour en finir avec la guerre de Troie. Nous y arrivons nous-mêmes, sans avoir besoin des dieux. Nous faisons comme eux. Mais chez nous, il n'y a pas un Zeus souverain qui voit loin, qui décide de tout. Il n'y a que plein de petits Zeus, plus ou moins aveugles, contradictoires, sans politique assumée. Des puissances rivales qui fonctionnent d'abord pour elles-mêmes, sans vue d'ensemble, sans la considération d'un bien commun. Mais ces puissances balourdes et bornées ont le pouvoir des dieux. Elles déforment à leur guise l'ordre naturel qui n'a de naturel que le nom. Et elles ne se soucient pas des conséquences de leur emprise, même si elles sont parfaitement informées. Chez nous, ce n'est pas comme dans l'Olympe. Les dieux se font la guerre, chacun a droit à son idolâtrie. Et personne n'est là pour les départager. Et ça continue. Voilà que je fais la leçon. Revenons aux mythes, c'est plus imaginatif.
Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Le dieu soleil est puissant, universel. Il rythme le temps. Il donne un contour défini à tous les êtres et il permet aux dieux et aux hommes de voir ce qu'ils font. C'est le feu qu'il envoie qui rend le monde visible. Ce feu solaire est aussi celui d'un regard. Pour les anciens, la vision suppose une activité. Elle n'est pas passive. Si nous voyons quelque chose, c'est parce que notre œil est plein de feu et qu'il envoie un rayon lumineux vers l'extérieur. Ce rayon rencontre la lumière que portent sur eux les objets du dehors. Le regard est la rencontre de deux lumières. Le soleil, qui est un rond de feu, est un œil. Il rend visibles les choses et une fois qu'elles sont éclairées, il les perçoit, comme nous. Naviguant très haut, il voit tout. Et les poètes ajoutaient, il entend tout. Le soleil est un témoin universel, rien ne lui échappe. Et il peut moucharder quand il le veut. C'est par exemple lui qui révèle au pauvre Héphaïstos, le dieu forgeron boiteux et disgracieux, qu'il est cocu parce que sa femme Aphrodite, mais quelle idée de l'épouser, le trompe avec le jeune et sémillant dieu de la guerre, Arès, plein de sève bouillonnant. Héphaïstos, l'artisan plus qu'habile, saura se venger et faire rire tous les dieux de l'Olympe aux dépens des amants surpris. Prévenu par le soleil, il combine un piège, un filet de métal qui les immobilise au lit, le temps que tout le monde se moque d'eux. Malgré sa puissance universelle, le soleil n'est qu'un dieu subalterne. Il n'est pas souverain, il est aux ordres des divinités supérieures. Il n'a pas le pouvoir de Zeus, le dieu suprême. Il ne peut pas tout chambouler. Même Héra, l'épouse de Zeus, la première parmi les déesses, peut le commander. Elle peut accélérer sa course si elle le veut, si elle est impatiente. C'est ce qui est arrivé un jour fatidique, pendant la guerre de Troie. Patrocle, le compagnon d'Ulysse, vient de mourir, tué par Hector, le grand défenseur de Troie. Grecs et Troyens se battent comme des chiens pour son cadavre. L'emporter dans leur ville serait pour les Troyens une gloire immense et une honte irréparable pour les Grecs. Vers la fin de la journée, les Grecs finissent par gagner et récupèrent le cadavre de Patrocle. Mais les Troyens sont toujours là, tout près, menaçants. Héra, la déesse qui soutenait à fond les Grecs, veut que le combat s'arrête, que les Grecs ne soient plus en danger. Or, on ne se battait pas pendant la nuit. Il fallait donc que le soleil se couche au plus vite, avant l'heure normale, et l'affaire serait réglée. Héra oblige le soleil à rejoindre l'océan, à l'ouest, plus vite que prévu. La nuit tombe, et comme on dit, il faut obéir à la nuit. Grecs et Troyens se séparent et baissent les armes, au moins jusqu'à ce que le lendemain l'aurore émerge de l'océan, à l'est. La guerre reprendra le lendemain, terrible.
Héra, la souveraine à l'œil de vache, envoya le soleil infatigable vers les flots de l'océan, qu'ils s'y rendent malgré lui. Le soleil se coucha et les divins Achéens arrêtèrent l'affrontement violent et la bataille qui égalise. Les Troyens, en face, loin de l'assaut puissant, se replièrent et détachèrent des chars les chevaux rapides.
Les dieux peuvent aussi faire encore mieux ou encore plus fort avec le soleil. Une histoire très étrange raconte comment Zeus s'est servi du soleil en changeant brutalement sa course. Il l'a tout simplement inversé. Le soleil désormais se lève à l'est et se couche à l'ouest. Avant, c'était l'inverse. Et visiblement, c'était mieux. Mais Zeus s'est fâché et a imposé cette marche du monde qui est celle que nous connaissons encore aujourd'hui. Tout cela à cause d'un mortel qui a été fourbe. Zeus, en inversant la course du soleil, fait payer aux humains le crime de l'un des leurs autrefois. C'est pour cela que le monde est toujours plein de violence, de crimes. L'histoire est celle d'une famille maudite que nous avons croisée souvent. L'histoire de la famille de Tantale et de ses descendants pas très nets, tous criminels, Pélops et ses fils Atrée et Thieste. Ces gens se sont dévorés entre eux, c'est le cas de le dire. Ça a débouché sur la guerre de Troie, un beau désastre universel. L'inversion de la course du soleil a eu lieu à la mort de Pélops. Il était roi, il avait deux fils, et comme d'habitude, la succession devait mal se passer. Ses deux fils étaient Atrée et Thieste, tous les deux ambitieux et avides de pouvoir. Il fallait les départager. Un signe infaillible devait permettre de désigner celui qui serait roi. Lequel des deux possédait un mouton à la toison d'or? Or, un tel mouton était né dans le troupeau d'Atrée, qui devait donc être désigné roi. Mais la femme d'Atrée couchait avec le frère d'Atrée, Thieste. Et une nuit, elle avait permis à Thieste de venir dérober le mouton à la toison d'or. Le jour où il fallait montrer ce mouton merveilleux, Atrée n'avait rien. Et Thieste proclamait qu'il disposait de ce mouton, ce qui était vrai. Atrée, furieux, prétend qu'il peut faire surgir un signe spectaculaire qui prouve qu'il est digne d'être nommé roi, bien plus que son frère. Il tient en son pouvoir, dit-il, non pas l'éclat terrestre et somme toute limitée d'une toison de laine, mais la lumière la plus haute, la plus sublime, celle du soleil. Atrée prétend qu'il peut, à sa simple demande, changer la marche de cet astre. Thieste rigole et dit qu'il renoncera à la royauté si son frère Atrée réalise ce qu'il dit, ce qui est impossible, évidemment. Or, Atrée y arrive. Il s'adresse au soleil, et le soleil s'arrête dans le ciel, puis repart en sens inverse. Il se dirige vers l'ouest pour se coucher, et non pas vers l'est comme avant. Tout est bouleversé. C'est Zeus, bien sûr, et non pas Atrée qui a commandé au soleil de partir dans l'autre sens. Zeus était excédé par les fourberies de Thieste et de cette famille en général. Il voulait le faire savoir en changeant le cours des choses. Le monde est désormais comme maintenant. Le levant est à l'est, le couchant à l'ouest. La terre est moins vivable, avec un excès de froid et d'humide au nord, de chaud et de sec au sud. Euripide, l'auteur de tragédie, raconte cette histoire incroyable dans sa pièce Électre.
C'est à ce moment, oui, à ce moment, que Zeus inversa les routes lumineuses des astres, l'éclat du soleil et le blanc visage de l'aurore. Le soleil, désormais, marche vers la grande mer du soir avec la flamme chaude de son feu divin. Les nuages, chargés d'eau, vont vers l'Arctique. Les séjours asséchés d'Amon en Afrique s'épuisent. Ils ne connaissent pas la rosée. Ils sont privés des si belles pluies de Zeus.
Zeus n'aimait pas spécialement Atrée. Il savait que cette famille était criminelle à chaque génération. Et il voulait marquer le coup, montrer que désormais, puisque les humains se permettaient ces actes affreux, ils allaient vivre dans un monde, dans un cosmos, qui porterait la marque du crime. Mais Euripide, qui rapporte cette histoire, n'y croit pas. Zeus ne peut quand même pas avoir inversé l'ordre naturel simplement pour punir les mortels.
C'est ce qu'on dit. Mais j'ai peine à croire que le soleil au visage doré ait en se retournant changé sa chaude résidence pour faire du mal aux humains et faire payer le crime d'un mortel.
Euripide pense que cette histoire est une invention des prêtres qui ont voulu effrayer les gens et les pousser vers la dévotion.
Les histoires qui font peur aux mortels profitent au culte des dieux.
Et toujours est-il que c'est allé de plus en plus mal pour cette famille d'Atrée et de Thieste et pour l'humanité. Atrée a occupé le pouvoir. Il a chassé son frère Thieste. Plus tard, Thieste est revenu dans l'espoir d'une conciliation. Mais Atrée est toujours tellement furieux contre lui que lors du repas des retrouvailles, il lui a fait manger ses enfants. Il les avait hachés menus pour que Thieste ne s'en rende pas compte tout de suite. Il avait laissé des morceaux intacts. Comme ça, en mangeant, Thieste a fini par comprendre. Il a vomi et a maudit toute la famille. Le soleil était tellement horrifié par ce repas qu'il s'est retiré. Il a laissé les vapeurs noires de la nuit envahir le ciel. Le monde est resté un temps sans lumière. Puis, ça ne s'est pas amélioré. Les fils d'Atrée, les Atrides, Agamemnon et Ménélas, ont conduit une guerre impitoyable contre Troie. Et dans leur famille, les meurtres se sont multipliés de génération en génération. Une autre fois, le soleil horrifié a paru quitter le ciel et refuser de voir et d'éclairer ce que font les humains. C'était dans le palais d'Ulysse, où les prétendants se comportaient comme d'affreux prédateurs. Un devin, qui assistait à leur repas de goinfre sans scrupule, savait qu'ils allaient tous être tués par Ulysse le jour même et qu'ils allaient tous prendre le chemin des enfers. Le devin le leur annonce. Il dit qu'il voit les murs du palais se couvrir de sang. Il voit la nuit s'accumuler autour des prétendants, alors qu'on est en plein midi. Le soleil, dit-il, s'est retiré. Pour eux, c'est la fin du monde.
Alors le devin égal au dieu leur dit
« Ah, pauvres gens, quel malheur vous advient. Je vois la nuit envelopper vos têtes, vos visages, vos genoux. Un gémissement brûle, vos joues sont couvertes de larmes. Les belles travées, les murs sont ruisselants de sang. Le vestibule est rempli de fantômes. La cour en est remplie, qui cherche les ténèbres de l'enfer. Et le soleil s'est absenté du ciel. Un mauvais brouillard fond sur vous. »
L'obscurité, selon le devin, s'est répandue. On peut se dire que ce devin évoque une éclipse à Ithaque. Or, on sait très précisément à quel moment une éclipse totale du soleil a eu lieu en Méditerranée, en mer Ionienne, là où se trouve Ithaque, l'île d'Ulysse. On a l'heure et la date. À midi, le 16 avril de l'année 1178 avant Jésus-Christ. Il paraît qu'elle a été spectaculaire.
Marcello Magnasco, biophysicien.
Au début du siècle, un astronome nommé Carl Shaw a essayé de dater un passage de l'Odyssée qui a été interprété par beaucoup depuis l'Antiquité comme étant la description d'une éclipse. Carl Shaw essaie donc de dater cette éclipse et il découvre que la seule date possible est celle du 16 avril 1178 avant Jésus-Christ, ce qui concorderait assez bien avec les estimations classiques de la chute de Troie, vers 1190 avant Jésus-Christ, sans compter les 10 années qu'il faut à Ulysse pour revenir. L'Odyssée comprend de nombreuses références à d'autres événements célestes. Il y a une référence à Ulysse naviguant grâce aux étoiles, une autre à Vénus, située très haut dans le ciel. Nous avons donc mis de côté la référence à l'éclipse et pris les autres références. En les examinant, nous avons constaté que, si chacune d'entre elles se produit fréquemment, leur combinaison, elle, est très rare. Nous avons donc pu affirmer que la seule date compatible avec ces autres références était également le 16 avril 1178 avant Jésus-Christ. Cela nous a donc fourni ce que nous pensons être une confirmation totalement indépendante que cette date pourrait être celle évoquée dans l'Odyssée.
1178 avant Jésus-Christ. Ce serait une date possible pour le retour d'Ulysse, puisqu'elle correspondrait à l'époque probable de l'une des destructions de la ville de Troie, telle que l'archéologie permet de le supposer. On aurait ainsi une date exacte pour le retour d'Ulysse, à l'heure près. Mais il ne faut pas rêver. Homère ne décrit pas une éclipse, mais fait parler un devin qui a la vision d'une scène de grande catastrophe avec un soleil absent. Ce devin voit une nuit soudaine, en plein jour, qui annonce la mort imminente des prétendants. Contrairement à ce qu'on imagine, ou à ce qu'on aimerait croire si on veut une date précise, cela ne veut pas dire qu'une éclipse a eu lieu à ce moment-là, à Ithaque, mais que le devin voit quelque chose comme un désastre cosmique se réaliser pour les prétendants dans la pièce même où ils sont en train de manger. Et de fait, leur mort au milieu des tables de leur festin sera horrible.
Pour ne plus jamais plus vous parler de la pluie, plus jamais du ciel lourd, jamais des matins gris, je suis sortie des brumes et je me suis enfuie sous les ciels plus légers, pays de paradis. Oh, que j'aurais voulu vous ramener ce soir, des mers en furie, des musiques barbares, des chants heureux, des rires qui résonnent bizarres, et vous ferez le bruit d'un heureux tintamarre, des coquillages blancs et des cailloux salés qui roulent sous les vagues mille fois ramenés, des rouges éclatants, des soleils éclatés dont la feu brûlerait d'éternels étés. Mais j'ai tout essayé, j'ai fait semblant de croire, et je reviens de loin, et mon soleil est noir. Mais j'ai tout essayé, et vous pouvez me croire, je reviens fatigué, j'ai le désespoir. Légère, si légère, j'allais court vêtue, je faisais mon affaire du premier venu, et c'était le repos, l'heure de nonchalance. À bouche, que veux-tu, et j'entrais dans la danse. J'ai appris le banjo sur des airs de guitare, j'ai frissonné du dos, j'ai oublié Mozart. Enfin, j'allais pouvoir enfin vous revenir avec l'œil à longue et vague de souvenirs. Et j'étais l'ouragan et la rage de vivre, et j'étais le torrent et la force de vivre. J'ai aimé, j'ai brûlé, rattrapé mon retard, que la vie était belle et folle mon histoire. Mais la terre s'est ouverte là-bas quelque part, mais la terre s'est ouverte et le soleil est noir. Les hommes sont murés tout là-bas quelque part, les hommes sont murés et c'est le désespoir. J'ai conjuré le sort, j'ai recherché l'oubli, j'ai refusé la mort, j'ai rejeté l'ennui, et j'ai serré les poings pour m'ordonner de croire que la vie était belle, fascinant le hasard qui me menait ici, ailleurs ou autre part, où la fleur était rouge, où le sable était blanc, où le bruit de la mer était une chanson. Oui, le bruit de la mer était une chanson. Je veux bien essayer, et je veux bien y croire, mais je suis fatiguée, et mon soleil est noir. Pardon de vous le dire, je reviens ce soir. Le cœur est gratigné et j'ai le désespoir. Le cœur est gratigné et j'ai le désespoir.
Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Le soleil peut s'indigner, se scandaliser et refuser d'éclairer le monde, tant les humains peuvent être affreux. Il n'a alors aucune envie de les regarder. Mais parfois, la catastrophe vient du soleil lui-même. Il n'est pas seulement une puissance cosmique qui tient tellement à l'ordre des choses que les désordres des humains peuvent le révulser. Il est une puissance, mais aussi un individu. Divinité qui n'existe pas depuis toujours, mais qui a dû naître, grandir. Il a une histoire, des amours, des enfants. Et de cette histoire, il lui arrive de ne pas être entièrement maître. Le soleil peut dérailler, à cause d'un enfant de lui, ou plutôt à cause de sa naïveté de père. C'est l'histoire de son jeune fils, Phaéton, qui a été foudroyé par Zeus, parce qu'il n'arrivait pas à tenir les chevaux du soleil. Son incompétence de gamin mettait le monde en flammes. Le soleil, Hélios, a eu un amour avec une fille d'Océan et de Tétis. Climène l'a célébrée. De cette histoire est né un enfant, Phaéton, le lumineux. Climène a par ailleurs été, comme beaucoup de filles d'Océan, une mère qui compte dans la mythologie, avec d'autres dieux mâles. Du titan Japé, elle a conçu Atlas et Prométhée. Selon une autre tradition, Prométhée n'est pas son fils, mais son mari. Ensemble, ils ont eu des humains, un frère et une sœur, Deucalion et Pyrrha, qui, seuls survivants d'un déluge, seront à l'origine de notre humanité. C'est vraiment intéressant. L'océanide Climénée et Climène est par sa progéniture liée à deux désastres qui ont failli faire périr l'humanité entière, par le feu, avec Phaéton, fils du soleil, et par l'eau, par un déluge, avec Deucalion et Pyrrha. Soleil, de son côté, s'est uni au moins à une autre fille d'océan, Perséis. De cette histoire sont nées Circé la magicienne et Aïétès. D'Aïétès, unie à une autre fille d'océan, Iduia, la savante, est issue Médée, une autre magicienne. Les enfants de ces filles d'océan pouvaient être soit immortels, comme Atlas, Prométhée, Circé, soit mortel, comme Phaéton, Médée, Deucalion et Pyrrha. Je ne sais pas pourquoi. Océan et Tétis ont eu 3000 filles. Leur incroyable fécondité couvre tous les aspects de la vie, que cette vie soit divine ou humaine. L'union d'une fille d'océan avec le soleil fait se rejoindre les deux forces qui, par leurs mouvements cycliques réguliers, tiennent le monde, lui assurant sa cohérence. Océan, le fleuve qui court en cercle autour de la terre, et le dieu soleil qui arpente avec son char la voûte céleste pour éclairer les êtres et leur permettre de croître. Mais cette fois, l'union aura des effets catastrophiques. Et Phaéton ne va pas survivre au fait d'être le fils du soleil. L'histoire de Phaéton était connue à haute époque, par un poète comme Hésiode, à la fin du 8e ou au début du 7e siècle avant notre ère. Mais nous ne savons presque rien de ce qu'il a écrit sur ce jeune homme solaire. Les poètes tragiques, Eschyle et Euripide, ont composé des pièces sur cette histoire. Mais comme Phaéton lui-même, elles ont été emportées par le naufrage des textes grecs. Pour savoir ce qui est arrivé au pauvre Phaéton, il faut attendre ce qu'en dit Ovide, le poète latin du 1er siècle après Jésus-Christ, dans son poème « Les Métamorphoses ». On y apprend que tout a commencé en Égypte, par une querelle entre deux enfants de Dieu, Épaphos, fils de Zeus, Jupiter pour Ovide, et d'une humaine, la princesse Io, se moque de Phaéton qui se prétend fils du soleil et ne fait que répéter idiotement ce que sa mère lui a dit avec fierté, Climène, fille d'Océan.
« Ta mère, tu la crois sur parole, espèce de fou !» Gonflé de l'image d'un faux père.
Phaéton rougit, réprime la colère sous la honte.
Le petit va se plaindre à sa mère. Il lui demande un signe certain de sa naissance divine. Cela veut dire que le soleil était un père totalement absent, Il faisait son travail avec ses chevaux, dans le ciel, puis restait dans son palais d'Orient, sans s'occuper de Phaéton, son fils, qui vivait en Égypte. Phaéton ne le connaissait pas. La mère, Climène, s'énerve.
On ne sait si ce sont les prières de Phaéton ou la colère de l'accusation portée contre elle qui émeuvent le plus Climène. Au ciel, elle tend les bras et regarde la lumière du soleil.
Par cet astre au rayon qui tremble merveilleusement, par lui qui nous entend et nous voit, enfant, je te le jure, de lui que tu regardes, de lui qui tempère le monde, le soleil, tu es fils. Si je dis des mensonges, qu'il m'empêche de voir, que cette lumière dans mes yeux soit la dernière. Ce n'est pas un gros effort de connaître le foyer de ton père. La maison d'où il se lève est voisine de la nôtre. Si tu le veux, va, apprends par toi-même.
Phaéton obéit à sa mère. Il quitte l'Égypte et va vers le Levant. Il passe par l'Éthiopie, suit les routes de l'Inde et arrive tout à l'est, chez son père le soleil. Il découvre un palais extraordinaire. Le dieu Vulcain, l'Héphaïstos des Romains, la décorait avec une image de l'univers entier. On y voit tout le monde que parcourt le soleil.
Le palais du soleil était tout en haut sur les colonnes de l'air. Clair, d'un or qui palpite, d'un cuivre de feu. L'ivoire brillant couvrait le faîte du toit. Les doubles portes irradiaient une lumière d'argent. L'ouvrage surpassait la matière. Vulcain a brodé les eaux qui entourent les terres du milieu et le globe, et le ciel suspendu sur le globe. L'onde a des dieux bleus, Triton l'harmonieux, Protée le changeant, et celui qui presse de ses bras le dos atroce des baleines, Égéon. Doris et ses filles, les unes qu'on voit nager, d'autres qui sur un rocher sèchent leurs cheveux verts, d'autres qui voyagent sur un poisson, toutes n'ont pas même visage, mais presque, comme c'est chez les sœurs. La terre porte des hommes, des villes, des forêts, des bêtes, des fleuves, des nymphes, des divinités de campagne. Au-dessus est posée une image du ciel qui luit. 6 constellations à la porte de droite, 6 à la porte de gauche. L'enfant de Climène, par la voie montante, arrive, entre au toit de celui qu'il croit son père.
Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Phaéton découvre son père sur son trône. C'est trop de lumière, il est ébloui. Le soleil, qu'Ovide appelle Phébus, le reconnaît tout de suite. On sait que le soleil voit tout et s'adresse amicalement à lui. Phaéton, rassuré, lui demande de donner un signe qui certifie qu'il est bien son père. Et là, son divin de père commet une énorme bêtise. Pour montrer qu'il est vraiment le père de Phaéton, il lui dit de demander ce qu'il veut. Il jure par le Styx qu'il le lui donnera.
Le père dépose des rayons brillants tout autour de sa tête, lui demande d'avancer et l'embrasse.
On ne peut pas le nier. Tu es mon fils. Tu en es digne. Climène a dit ta vraie naissance. Ne doute pas. Demande en cadeau ce que tu veux. Je te le donnerai. Tu le prendras. Sois témoin de mes promesses. Marée par lequel jurent les dieux. Marée inconnue de mes yeux.
À peine il a fini, Phaéton demande le char paternel. Pour un jour, le droit de conduire les chevaux ailés. Le père regrette d'avoir juré.
Phaéton n'a pas attendu longtemps pour demander ce qu'il voulait. Conduire le fabuleux char de son père. Le soleil sait que ça n'a pas de sens, mais il a juré. Il fait tout pour dissuader son fils.
Parole folle,
dit-il,
que les miennes, dictées par les tiennes. Ce que j'ai promis, si je pouvais ne pas le donner, j'avoue, c'est la seule chose, enfant, que je te refuserai. Je dois te dissuader. Ton vœu n'est pas sûr. Tu demandes beaucoup, Phaéton. Ni à tes forces ce cadeau ne convient, ni à tes années d'enfance. Ton sort est mortel. Ce que tu veux n'est pas d'un mortel. Tu cherches plus que ce que peuvent les dieux, ignorants. Tu as confiance en toi, d'accord, mais personne n'est assez fort pour s'installer sur le char de feu, sauf moi. Même le maître du vaste Olympe, qui lance de sa main terrible la foudre féroce, ne conduira pas mon char. Et qu'y a-t-il de plus grand que Jupiter ?
Le soleil décrit à son fils toutes les difficultés de la route. La pente escarpée qu'il faut gravir le matin. La hauteur à midi qui donne le vertige, même à lui le soleil. Puis la descente très périlleuse vers l'océan. En plus, le ciel emporte avec lui toute une procession tourbillonnante d'étoiles qui ne suivent pas la même route que le soleil. Il faut résister, ne pas se laisser emporter.
Ajoute que le ciel est pris dans un tournoiement sans fin, qu'il traîne les hautes étoiles, les fait rouler en vifs tourbillons. Je fais effort contraire. L'élan ne me vint pas qui vint les autres. Je m'emporte à l'envers du mouvement violent.
Il y a aussi les monstres, des constellations, le taureau, le lion, le scorpion, qu'il ne faut pas provoquer. Quant aux chevaux du soleil, ce sont des bêtes excitées par leur propre feu. Les tenir est extrêmement difficile. Mais le fils ne veut rien entendre. Le père doit céder. L'aurore s'éveille, ouvre les portes. C'est le signal qu'il faut partir. Il faut atteler les quatre chevaux cracheurs de feu. Le soleil enduit la bouche de son fils d'une drogue qui lui fera supporter les flammes. Il lui indique la route précise qu'il doit suivre et pleure en lui-même, tant il a peur. Phaéton démarre. Les chevaux s'élancent, prennent de la hauteur, coupent les nuages. Mais ils sont étonnés de ne pas sentir le poids de leur cocher habituel, le poids du dieu soleil. Ils trouvent le char très léger.
Mais ce poids léger, les chevaux du soleil ne peuvent le sentir. Le joug manque de la lourdeur ordinaire, et comme glissent les navires courbes faute de juste poids, et par la mer sont menés mouvants trop légers, le char fait dans l'air des sauts libres de charge. Il est secoué dans les hauteurs, pareil à un char vide. Quand ils comprennent, ils se ruent, quittent l'espace connu, les quatre chevaux. Ils ne courent plus sur leur ligne. Phaéton est épouvanté.
Le gamin est perdu. Il ne sait que faire. Tout ce qu'il voit l'effraie. Il lâche les rênes. Les chevaux s'emballent, suivent des routes inconnues, tout en haut du ciel, ou au contraire tout en bas, près de la terre. Les nuages brûlent. La terre s'enflamme, se craquelle. C'est l'embrasement général.
Fendu, la terre se crevasse. Sèche quand les sucs se retirent. Les pâturages blanchissent. L'arbre prend feu avec ses feuilles. La récolte déjà sèche offre matière à son désastre. C'est se plaindre de peu. De grandes villes et leurs remparts périssent. Des pays avec leurs peuples. Les feux les font cendre. Les forêts avec les montagnes brûlent. Le sol se fendille. Par les crevasses, la lumière pénètre dans le Tartare et terrorise le roi des enfers et son épouse. La mer se contracte, pleine de sable sec, ce qui était l'océan.
Gaïa, la déesse terre, devenue aride, lève une grande protestation. Le monde, dit-elle, revient au chaos initial. Mais bientôt, elle ne peut plus parler. La vapeur de l'incendie lui ferme la bouche. Jupiter commence à réagir. Il voit le désastre. Il tonne et envoie sa foudre sur Phaéton. Le char se disloque. Phaéton en feu tombe vers la Terre, laissant une grande traînée derrière lui, comme une étoile tombant du ciel. Il est recueilli mort, brûlé, par le grand fleuve Éridan, qui le nettoie. C'est le fleuve italien qu'on appelle maintenant le Pô. Des divinités de l'eau, les Naïades, placent son corps encore fumant dans un tombeau avec cette inscription.
Ici est Phaéton, conducteur du char de son père. Il n'a pas pu, il a essayé, il en est mort.
Le soleil est affligé et ne brille pas pendant un jour. Climène cherche le corps de son fils, trouve la tombe et s'y couche en pleurs. Phaéton avait des sœurs, filles de Climène et d'Hélios, le soleil. On les appelait les Héliades. Pendant 4 lunes, elles gémissent sur la tombe de leur frère. Elles se figent, s'immobilisent dans leurs pleurs. Le poète Ovide raconte leur transformation. Peu à peu, ses filles deviennent des arbres, des peupliers.
Parmi les sœurs, Phaétoussa, la plus grande, veut s'allonger à terre et se plaint. Ses pieds ont raidi. Tente de la rejoindre la blanche Lampéti. Une soudaine racine la retient. La troisième va déchirer sa chevelure de ses mains. Elle arrache des feuilles. L'une, ses jambes sont tenues dans une souche. L'autre, ses bras deviennent de longues branches. Elle souffre. Elle s'étonne. L'écorce embrasse le sexe, puis lentement couvre le ventre, la poitrine, les épaules et les mains. Elles n'ont plus que les bouches pour appeler leur mère.
Climène, leur mère, essaye d'arrêter cette métamorphose, de sortir ses filles de l'écorce qui les emprisonne. Elle casse les branches, du sang coule, les filles protestent.
Arrête, je t'en prie, ma mère,
crient les blessés.
Arrête, je t'en prie, c'est notre corps que tu déchires en cet arbre. Adieu.
L'écorce couvre les dernières paroles.
Les larmes que versent les filles durcissent au soleil. C'est de l'ambre. Le soleil, en deuil, accuse Jupiter d'avoir tué son fils. Il veut abandonner son travail. Les dieux le supplient de ne pas couvrir le monde de ténèbres. Jupiter s'excuse, puis menace. Le soleil accepte de reprendre sa fonction. Il lance ses chevaux sans douceur, à coups de fouet. Il est dit coupable de la mort de Phaéton. Les choses normales reprennent leur cours. Après une catastrophe gigantesque, un incendie qui a ravagé la Terre, le monde a brûlé. Le char du soleil, avec ses 4 chevaux, peut être terrifiant. Mais est-ce qu'il faut croire à tout cela? Le soleil, après tout, on le voit tous les jours. Ce n'est pas comme Zeus, Héra, Poséidon ou Artémis, qui n'apparaissent jamais ou presque. Que nous apportent toutes ces histoires? Et qu'est-ce qu'on gagne si on traite le soleil non comme un conducteur de char, mais comme un être matériel, si on lui enlève cette puissance divine? Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Maria Pasquet. Les archives sonores ont été rassemblées par Anna Massardier. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurence Stocker. Le choix musical est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Vincent Godard. Bonne journée sur France Inter.